Sur RDOA 101.7, 107.5, je suis avec Alice aujourd'hui. Alice, qu'on a déjà eu la chance d'entendre à plusieurs occasions sur la FM de RDOA, mais peut-être que certaines auditrices ou auditeurs ont loupé ton passage. Pour nous remettre un peu dans le contexte, tu es conteuse et pas que. Tu fais et proposes aussi plein d'autres prestats artistiques. Mais pour cette occasion, on va rester sur tes qualités de conteuse et parler justement de ta dernière création, des outils utilisés pour t'inspirer et leur influence dans ton travail, notamment la musique.
Ouais.
Salut.
Salut Mallory.
Alors, c'est quoi les contes de fées dérangés, dégenrés ?
Les contes de fées dérangés, dégenrés, c'est une idée qui m'est venue cet été. Et pour en parler, je te propose de lancer le générique des contes.
Allez, c'est parti.
Salut, c'est Alice. Aujourd'hui, c'est l'heure du conte. Mais attention, pas n'importe quel conte. Les contes de fées dérangés, dérangés. Ici, vous allez redécouvrir les contes de Grimm, de Perrault, d'Andersen, bref, tous les contes de votre enfance, mais où les rôles de genre sont inversés, où les princesses peuvent épouser des sirènes et où les critères de beauté ne sont pas forcément ceux qu'on attendait. À part cela, je ne change pas une seule virgule au texte d'origine. Et vous allez voir, c'est assez drôle ou assez affligeant, c'est selon. Alors, installez-vous confortablement. Ouvrez grand vos oreilles et votre sens de la déconstruction.
Je trouve génial ce générique. Et dans ce générique, on peut entendre une petite musique qui est une reprise d'une chanteuse bien connue, enfin en tout cas pour la plupart, peut-être pas tout le monde,
ouais.
Mais quand même.
Vas-y, je vais la mettre pour ceux qui auraient reconnu.
Aya Nakamura. Ah, tu connais quoi, elle va me manipuler. Fais doucement, tu pourrais m'en douter. Je vois que tu galères à passer le step. Parler dans ma tête, c'est mort. Je t'en vois balader. Mais je t'avais dit que j'étais sauvage. À vrai dire, je suis pas très sage. Et tu vois bien ce que je dégage. Je suis trop charismatique. Tu kiffes mes timidiques. Il m'a dit, baby, ma pardon. Fais doucement, je pète des plombs. Et comment. Et quand tu mens comme ça, jusqu'à 40%, tu fais la gueule, arrête-moi ça. C'était qu'un jeu redescend. Mais mon Dieu, que c'est doux, voilà, je mène à bout. Il est piqué, c'est pas compliqué. Bébé, pourquoi y'a tout? Pourquoi y'a tout? J'ai changé la donne, je vais le dominer.
C'est 40% de Aya Nakamura.
Donc, qui est une artiste qui t'inspire peut-être dans ton travail de conteuse et puis du coup de création quand même, parce que même si tu ne changes presque rien, ça demande forcément un peu d'imagination tout ça et donc d'inspiration que tu trouves dans la musique.
Aya Nakamura, c'est une de mes chanteuses préférées. J'écoute pas que ça, j'écoute aussi plein de musiques différentes. Mais j'aime les histoires qu'elle raconte, j'aime surtout sa musique et sa façon de chanter ses histoires. Donc je pense qu'on peut parler d'inspiration.
Donc tu mêles musique populaire et contes de fées.
Ouais.
Pourquoi ?
Je me dis, les chansons qu'on écoute, est-ce que c'est pas en fait des mini-contes en musique ? Quand j'écoute des chansons, c'est comme si j'écoutais une petite histoire. Et je m'immerge le temps de la musique dans le récit que me propose l'artiste. Et du coup, je vis en image l'histoire qu'il me raconte. Donc toute la journée, quand j'écoute ma musique, parce que oui, j'écoute de la musique toute la journée, je vis plein de petites histoires dans ma tête. Et comme Aya Nakamura, moi j'écoute beaucoup de pop, R&B, afro-rap, hip-hop français, tu vois. Donc je ne sais pas trop dans quoi classer ce style de musique. Mais pour donner des noms, c'est beaucoup... Dadju, Franglish, Fronisia, Taiki pour les plus connus. Et du coup, voilà, je précise pour dire que je ne suis pas en train de parler de la pop type Angèle, Kenji Girac, je ne sais pas du tout ce qu'ils disent, je n'écoute pas. Et voilà, donc moi là, je parle vraiment de sons avec beaucoup d'autotunes qui sont faits pour danser, pour s'enjailler en soirée avec des instrus très afro-hip-hop. Et toutes ces chanteuses, ils parlent presque exclusivement de relations hommes-femmes, d'amour, de séduction. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je passe ma vie à vivre des histoires d'amour dans ma tête. Et inconsciemment, insidieusement même, je dirais, ça influence ma façon de voir les relations amoureuses, de ce que je dois attendre de l'autre dans le couple, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas. Et tu vois, bah, c'est exactement ce qui se passe avec les contes de fées de notre enfance. C'est des récits d'aventure qu'on écoute depuis qu'on est tout petit, qui finissent 8 fois sur 10 par un mariage et qui nous dictent inconsciemment quel comportement adopter pour aspirer au bonheur, entre guillemets, avec évidemment des comportements très différents si on est un homme ou si on est une femme. Voilà. Dans ces musiques, je retrouvais les mêmes clichés, les mêmes schémas répétitifs, et du coup, j'ai envie d'accompagner mes contes de fées de ces musiques-là plutôt que d'instruments plus classiques, plus attendus, justement pour faire le parallèle entre ces mini-contes qui passent sur nos radios et qui sont écoutés par les gens de mon âge ou les gens plus jeunes, et les contes de notre enfance qui, eux, se transmettent de génération en génération. Voilà. Donc, ce que je trouvais intéressant, ouais, c'était le fait de mettre ces chansons d'amour auto-tunées dans mes contes de fées, parce qu'elle aussi, elle propose un modèle de relation hyper codifié. C'est très noir-blanc. Il n'y a pas beaucoup de place pour la complexité des sentiments. Les hommes font ci, les femmes font ça. Et j'aurais pas pu trouver ça avec du Jacques Brel, du Stromae, du Brassens, où là, les histoires racontées, elles sont pleines de poésie, et où donc il y a beaucoup plus de place pour la complexité du sentiment amoureux. Non, moi, là, ce que je cherche, c'est le cliché et y aller à fond, quoi.
Alors justement, tu parlais un peu de poésie et de cliché, c'est un peu les derniers mots qui sont ressortis. Alors, quel message tu cherches à faire passer et pourquoi tu t'associes pas justement plus, ne pas associer tes contes à des musiques peut-être plus poétiques qui viendraient contrebalancer ces rôles très clichés ?
Et du coup, j'ai choisi de mêler la musique populaire aux contes populaires. Il y a un aspect un peu léger où je veux dynamiser le conte, le rendre drôle, malicieux, mais en fait, sous couvert d'humour. Je veux surtout pointer du doigt la répétition des schémas liés à l'amour et au rôle de genre. Tu vois, quand je mets du This is la peste pour illustrer la scène du roi qui se regarde dans le miroir...
Alors, le roi était content, car il savait que le miroir disait la vérité.
Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Seul devant ma glace, je me trouve très beau.
Je cherche à faire rire l'auditeur, là. Je cherche à le surprendre, mais surtout le réveiller et le sortir de l'idée que le conte parle d'un temps révolu où on imagine qu'il sort d'un château habillé en armure. Non, le prince, il peut sortir d'un HLM tout habillé en Lacoste ou de la maison du village d'à côté avec ses fringues de paysan. Voilà, donc moi je cherche à grossir le trait pour qu'on prenne conscience de l'importance des mots et des récits dans la construction de soi et des relations qu'on tisse avec les autres. Moi je crois vraiment que le monde il est fait de mots, que chaque mot porte un monde en lui-même et que du coup, passer son temps à écouter des histoires, ça a un impact sur la vie de tous les jours. Et pareil, quand je mets du R&B américain des années 2000, au moment où Podanès enfile ses beaux habits et se regarde dans le miroir.
S'enduisait d'huile, brossait ses cheveux et, devant son miroir, enfilait tantôt son habit de lune, tantôt celui de soleil, tantôt son ensemble d'azur aux couleurs du temps. Et il aimait se voir beau, jeune, et ce seul plaisir suffisait à le mener jusqu'au dimanche suivant.
Là, ce que j'essaye, c'est d'amener un côté langoureux au prince. Alors, à la fois pour dire qu'un homme a tout à fait le droit de se dandiner de façon lascive sur une musique de lover, Mais je le fais aussi pour me moquer de l'influence que le R&B américain a eu sur moi.
Quelle influence alors ce R&B des années 2000 a eu sur toi?
Bon, alors là, c'est le moment où j'avoue mon forfait, mon péché mignon. Bon, moi, j'ai été biberonnée à MTV. Tous les après-midi, quand je rentrais du collège, je regardais la télé en cachette. Voilà, maman, si tu écoutes cette émission, maintenant, tu le sais. Et j'adorais les clips de R&B américain. Donc déjà, mes premiers princes charmants, bah, moi, c'était Usher et Craig David. Et ce que je retenais de ces vidéoclips, c'est qu'un homme, il est beau s'il est musclé, s'il a la peau foncée, un petit jams à l'oreille, les contours des cheveux bien faits. Et en fait, aujourd'hui encore, c'est un idéal de beauté que j'ai toujours pas réussi à déconstruire. Et bon, ça, c'est pour l'aspect très terre-à-terre. Mais ce que me disaient ces vidéoclips de façon plus inconsciente, c'était surtout « Tu auras plus de valeur le jour où un homme comme ça posera les yeux sur toi. » Le jour où un homme comme ça va te valider. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai beau écouter des kilomètres de podcasts sur les relations amoureuses, comme Le cœur sur la table, évidemment, lire des bouquins féministes, en parler avec mes copines, avoir conscience de cette injonction, en parler avec mes copains aussi, et être, tu vois, enfin, je voulais dire, avoir conscience de cette injonction à être validée par un beau gosse, par le prince charmant, et ben, j'arrive toujours pas à m'en défaire. Donc, du coup, j'ai besoin de me moquer de moi. J'ai besoin d'aller retourner mes rêves de petite fille, d'appuyer là où ça fait mal pour essayer d'exorciser ce modèle de réussite que j'ai gobé et que je pense partager avec plein d'autres filles ou de garçons.
Et c'est peut-être un modèle qui n'est pas forcément partagé aussi. Du coup, est-ce que tu t'adresses à un public plus ciblé qu'à un autre ?
Bah, c'est sûr que... Les premières personnes à qui je pense quand j'enregistre ces comptes, c'est les gens qui écoutent la même musique que moi. Parce que je me dis, il doit y avoir plein d'ados qui ne remettent pas en question ces paroles. Alors, comment toucher ces publics ? Bah, ça va être en partageant sur les réseaux sociaux, en envoyant mes comptes sur d'autres plateformes, le bouche à oreille, la communication. Parce que moi, autour de moi, j'ai presque personne qui écoute ces chansons. Je suis un peu toute seule dans mon délire, comme on dirait. Mais après, j'ai aussi mon public, donc des gens qui me suivent depuis longtemps, qui soutiennent mon travail et qui vont écouter mes comptes, surtout parce qu'ils me connaissent, qu'ils sont abonnés à ma newsletter. Et c'est un public qui va avoir de la vingtaine à 90 ans et qui, pour le coup, n'écoute pas du tout ce genre de musique. Et dans ce cas-là, bah, c'est une façon de leur dire, vous voyez, on pense que ça a changé, on pense que les modèles de relations ont évolué, mais voici la société actuelle, écoutez un peu comme on parle de nous, comment on parle d'amour à la radio.
Le côté humour qu'on retrouve dedans, on est obligé de rire ou de sourire quand on écoute tes comptes. Et du coup, je pense que ça peut même apporter, peut-être à toucher un public plus jeune.
Oui, sûrement. J'aimerais bien avoir les réactions à chaud des gens qui ont pu écouter mes comptes dans la voiture ou... dans le lit avant de s'endormir ou entre potes.
T'as déjà eu des réactions sur tes comptes ?
Les gens sont étonnés. Il y en a qui, du coup, arrivent à complètement se détacher des images Disney. D'autres qui, quand ils m'entendent dire, et du coup, le prince passait par là et a vu, et il est tombé amoureux de l'autre prince, ils me disent « Ah ben non, là, tu t'es trompée ». Je dis, bah non, je me suis pas trompée. Et donc, même moi, je le faisais écouter à un pote gay hier et il a bugué, quoi. Même lui, il a pas réussi à accepter qu'il y avait ce rôle dans le conte.
Et tu l'évoques aussi dans ton générique, puisque tu dis qu'une princesse peut tomber amoureuse d'une sirène.
Ouais.
Donc là aussi, en fait, tu relèves aussi un petit peu les côtés d'homosexualité qui sont des fois cachés, enfin, dont on ne parle pas du tout, en fait, dans les stéréotypes et contes. Alors que l'homosexualité est présente et l'a toujours...
Oui, voilà. Là, j'ai juste envie de parler d'histoire d'amour et de montrer que l'amour, il peut être dans plein de sens différents, avec plein de genres différents. Et il s'agit de normaliser l'homosexualité dès la petite enfance, dès les contes qu'on écoute. Et de se dire qu'on peut tomber amoureux d'une duchesse, d'un baron, d'une bergère ou d'un valet.
Alors, comment cet univers t'influence ?
Bah, le mieux pour répondre à cette question, je pense, c'est qu'on passe 2-3 sons et du coup, vous allez tout de suite comprendre à quoi je fais référence. On va commencer avec Plan de Drix avec Franglish.
Tu sais, je viens du bend, monte à bord de la bend. T'inquiète, je vais tout gérer. Ta vie, je vais colorer. Elle aime me questionner. Comment je fais la monnaie? Pointant, c'est me tu te portes. Pour l'instant, reste fort. J'ai tout ce qu'il te faut. J'ai les mots, s'il faut t'aider. Pourquoi me résister? Avec le temps, tu vas céder. Mon regard sur toi, t'as gagné, tu t'es démarqué. Ce que t'as sur le cœur, dis-le-moi, tu peux me raconter. T'es différent des autres. Reste avec toi, j'cale love. Du love toute la noche. Du love toute la noche. T'es différent des autres. Reste avec toi, j'cale love. Du love toute la noche. Du love toute la noche.
Ne t'en fais pas, ma belle, t'es bien plus qu'un plan. Oublions le reste sur la liste d'attente. Ta beauté me blesse et me perd souvent. J'ai très bien compris que ton cœur n'est pas à vendre.
Là, le premier son qu'on a écouté, c'est Franglish qui dit « Pourquoi résister ? Avec le temps, tu vas céder. » Et après, il dit « T'as tout gagné, mon regard sur toi, j'ai posé. » Donc, dans la première partie de la phrase, là, on est clairement sur du gros harcèlement. Et Franglish, il a un univers très mal dominant, le beau gosse friqué qui va gérer la nana en soirée, lui montrer que c'est lui le boss, qu'il est drôle, qu'il est frais et qu'elle acquiert elle a plus de valeur parce qu'il a posé les yeux sur elle. Après, on peut écouter Dadju.
Oh, Zizi. Aujourd'hui, je suis fatigué. T'es regardé dormir. Et si ma voix peut t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit. Je t'entends dire à tes pingo d'adjou, je peux plus me passer de lui. Et tout va glisser sur ta peau, c'est comme si je te passais de l'huile. Et s'ils ne sont pas nous, c'est tant pis pour eux. Et s'ils sont jaloux, c'est tant pis pour eux. Fais-le moi savoir quand c'est douloureux. Je suis là s'il faut encaisser pour nous deux. Et je le sais, je te fais confiance. Quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est temps de partager mon sang. Et t'élever au rang de reine. Au rang de reine, au rang de reine. Je vais t'élever au rang de reine. Au rang de reine, au rang de reine.
Alors lui, il est plus en mode prince charmant. C'est le mâle protecteur qui va sauver la fille, donc sauver la princesse. Et c'est grâce à lui que sa vie va être plus belle. Et encore une fois, il la valide, elle acquiert aussi plus de valeur à ses yeux parce que Dadju a décidé de prendre soin d'elle. Et puis quand il dit « j'ai pas besoin d'attendre plus longtemps, je sais qu'il est temps de partager mon sang », moi j'ai l'impression qu'il dit « bon allez, j'ai décidé de faire des enfants et tu es l'heureuse élue qui va accepter de me faire des petits ». Et du coup, bah, trop bien, mon Dadju va se reproduire, je suis ravie pour lui. Après, y a Aya. Alors, Aya Nakamura, c'est un peu différent parce que c'est une fille, donc forcément, ce n'est pas le même discours. Bon, c'est une chanteuse, comme j'ai dit au début, hein, c'est ma chanteuse préférée, donc je n'ai aucun scrupule à être super critique. Vas-y, on peut balancer le son.
Et quand tu mens comme ça, t'as 40%, tu fais la gueule, arrête-moi ça. C'était qu'un jeu frustrant, mais mon Dieu, que c'est doux, voilà, je mène à bout. Il est piqué, c'est pas compliqué, bébé, pourquoi y'a tout, pourquoi y'a tout. J'ai changé la donne, je vais le dominer.
Voilà, donc Aya, elle a un côté très garce. Et tu vois, quand elle dit « Mais mon Dieu, que c'est doux, alors je le mène à bout, il est piqué, c'est pas compliqué », clairement, elle prend plaisir à prendre la tête à son gars. Et les textes d'Aya, sauf quand elle écrit à son amoureux, ils sont très peu bienveillants. Elle a un discours assez hautain où elle dit tout le temps au gars « Moi, je vais te faire courir et j'ai intérêt à être la seule dans ta vie. Sinon, gare à toi. »
Mais du coup, quand tu parles de garce d'Aya Nakamura, malgré le fait que ce soit une chanteuse que tu aimes beaucoup, pourquoi tu penses qu'elle adopte cette posture et pourquoi c'est aussi présent dans ses chansons ?
Bah, je pense que c'est une attitude de défense et de surenchère de la violence, tu vois. En fait, elle serait peut-être un peu obligée d'être en mode attaque pour devancer les attaques de l'autre. La relation amoureuse chez Aya, elle n'est pas vue comme un partenariat, mais j'ai l'impression que c'est un peu une compétition à qui sera le plus dépendant de l'autre. Bah, après, dans un même son, elle peut prôner totalement l'inverse. Genre, elle va dire dans un couplet « J'étais dans la peau, mince alors ». Et dans le couplet suivant, je pense à la chanson Nirvana, par exemple, elle va dire « T'es au courant de mes pépins, tu m'as toujours tendu la main ». Et puis après, elle repart dans la concurrence avec les autres filles. quand je suis pas là, oublie toutes tes nanas, t'es à moi, l'oublie pas.
On fait le tour du monde, machallah. T'es pas comme les autres, machallah. Tu penses à moi, c'est très bien. J't'ai dans la peau, mince alors. On fait le tour du monde, machallah. T'es pas comme les autres, machallah. Tu penses à moi, c'est très bien. J't'ai dans la peau, mince alors. Quand j'suis pas là, oublie toutes ces nanas. T'es à moi, l'oublie pas. Le pactole, c'est mon âme. Très nonchalante, j'ai toujours été comme ça. T'es au courant de mes pépins. Tu m'as toujours tendu la main.
Donc là, elle rentre complètement dans le jeu de concurrence dans lequel les mecs nous mettent en criant haut et fort qu'elle se sent au-dessus de cette concurrence. Je pense qu'il y a aussi une réponse à la violence des critères de beauté. Aya, elle n'est pas dans les critères de beauté des années 2000. Enfin, en tout cas, je pense que quand elle était ado, elle n'était pas à la mode, tu vois, où il fallait... moi, en tout cas, dans mon lycée, il fallait être maigre, avoir la peau claire, les cheveux lisses. Aya, pour ceux qui ne voient pas à quoi elle ressemble, c'est un mastodonte d'1m75. Elle a des larges épaules, un large cou. Elle est noire, elle a beaucoup de formes. Et je pense qu'elle a sûrement dû souffrir, comme plein d'autres ados, de ce diktat de la mode. Et en répétant à tue-tête dans ses chansons que bah, c'est elle la plus fraîche, pour moi, elle instaure un peu un nouveau modèle de beauté où avoir du bidon et une grosse poitrine qui ne tient pas toute seule, bah, c'est valorisé. Et du coup, je pense qu'il y a une partie de moi qui aime cette image de la beauté qu'elle revendique, même si au final, c'est toujours tourné vers les hommes.
Au final, c'est ce message-là qui, toi, t'influence dans tes comptes, en fait. C'est qu'elle aussi, elle casse d'une certaine manière des critères peut-être déjà tout structurés, quoi.
Je ne sais pas si elle les casse. Moi, je pense qu'elle les renforce. On demande souvent à Aya si elle est féministe. Elle dit qu'elle ne se pose même pas la question. Je pense qu'il y a plein de façons d'être féministe. Mais en fait... C'est paradoxal, elle propose à la fois un message d'empuissancement, d'indépendance, et elle encourage les femmes à ne pas être là à attendre le prince charmant. Mais d'un autre côté, toutes ses chansons parlent d'amour, de relations, et elle continue à mettre les femmes en concurrence les unes avec les autres dans ses paroles. Ouais.
Donc, un manque de confiance peut-être, même si c'est plus même si maintenant c'est plus le cas, peut-être que, comme tu le disais, pendant son adolescence elle a souffert et que du coup ça crée un petit manque de confiance qui se reflète aujourd'hui dans ses chansons.
Bon, là c'est moi qui me projette, mais en tout cas un manque de bienveillance, c'est sûr. Mais je pense qu'Aya, elle n'est pas là pour être bienveillante, hein, tu vois. Je suis très contente de la connaître juste à travers ses sons et de ne pas être pote avec elle.
Donc c'est juste pour l'inspiration des contes, ça va.
Ouais.
Merci Alice pour ce moment. Merci studio. Valérie.